talmudique. Voici un film qui s'intitule « Lettre errante ». Un film qui s'intéresse à une lettre, une seule, la lettre R, sans laquelle d'innombrables choses, personnes, situations et mondes n'existeraient pas comme elles existent. Il n'y aurait pas Paris, ni Berlin, ni Londres, ni Rome. Il n'y aurait pas d'Eros et pas de mort, et le mot rêve n'existerait pas. Un film consacré à une lettre, une seule, une lettre qui erre, une lettre voyageuse, de langue en langue, de pays en pays, de siècle en siècle, de prononciation en prononciation, véritable shibboleth, cette expression biblique tirée du livre des Juges, qui dit qu'une lettre, par sa prononciation, discrimine et sépare ceux qui en sont et les autres. Six hommes et femmes entrent dans le cadre de la caméra, marchent dans un jardin, et face à nous, font le récit de leurs liens et de leurs démêlés avec la lettre R. Un film poème, riche, émouvant, surprenant et attachant, dans lequel se tissent les différentes sonorités de la lettre R, avec les couleurs et les souvenirs d'enfance, avec le vent dans les feuilles et l'histoire du cinéma, toujours présent en filigrane. Nourita Vive, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
C'est un très grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Comment cette lettre est entrée dans votre vie, Nourita Vive?
Je viens d'un pays où les gens parlaient toutes les langues et tous les accents. Je suis née à Tel Aviv. Je peux raconter ses secrets, j'y suis née en 45. Donc, les gens parlaient toutes les langues et tous les accents. Et je me rappelle, et je l'ai encore aujourd'hui, que j'attendais toujours, et avant que quelqu'un s'exprime, de savoir quel va être l'accent dans lequel il va parler. Et les R étaient spécialement les plus intrigants. Et déjà, mon nom, Nouritz, au milieu. Donc, je m'attendais comment on va m'appeler, comment les R va rouler ou pas rouler, d'où il va venir. Je crois que j'avais 12 ans. J'imaginais le nom des enfants que je vais avoir. Je pensais pas aux enfants, du tout. Je pensais à leur nom. Et ça s'est partagé en deux. Deux noms avec R et deux noms sans R. Bon, il y avait l'époque comme ça que j'étais très nationaliste, qui après m'est partie complètement. Mais c'était les R, donc c'était Barak. Barak Ben Avinoam. Et je voulais un enfant Barak. Mais je voulais pas un enfant, je voulais le nom de l'enfant. J'ai pas du tout pensé à l'enfant. Donc les R étaient toujours très présents et les plus vibrants, les plus troublants, parfois inquiétants, parfois me faisant rire.
Barak, ça veut dire l'éclair. Et quels étaient les noms que vous aviez choisis sans R?
Sans R, c'est quelque chose comme Noam. D'ailleurs, ma sœur s'appelle Naomi. Donc les M, lui, il était doux. Les M, les L, c'est les lettres douces. Et après, c'était plus dans la douceur. Mais quand même, les R, les gens disent qu'il est du masculin. Dans le film, ça s'est dit, et les linguistes les racontent aussi. C'est étrange qu'on parle dans le film de langue des hommes et langue des femmes, et que les R roulés, il paraît qu'il est très masculin.
Nourita Vive, il y a six personnages dans votre film. Ce serait bien de faire leur connaissance. Le premier est un écrivain norvégien.
Karl Ove Knausgård, qui est un écrivain très connu dans le monde et traduit en 30 langues. Misako Nemoto, qui est enseignant du français à Tokyo et qui parle 4 ou 5 langues. Luba Jorgensen, écrivain et traductrice de russe en français. Amel Chaouti, psychologue. Orly Noy, journaliste et traductrice du persan en hébreu. Guy Régis Junior, qui est metteur en scène de théâtre et traducteur aussi du français vers les créoles.
Pourquoi la lettre R, Nourita Vive? En quoi, au-delà du jeu de mots, elle est errante?
Déjà, je crois que c'est la seule lettre qui erre dans la bouche, qui circule. Elle passe du fond de la gorge vers le haut du palais. La langue qui roule, et parfois elle roule une fois, deux fois. Je connais pas une autre lettre qui erre, qui bouge autant. Je pense à Misako dans mon film La Japonaise, qu'elle dit que c'est une question de souffle. Et que pour elle, c'est physique complètement. Ben, le japonais, il n'y a pas les R. Et pour elle, tout est une question du souffle. Et que Karl Ove Knausgård, il parle de...
Le premier intervenant norvégien.
Oui, norvégien. Lui, il parle qu'en Norvège, la distance entre les petits villages, que la distance est très petite et l'accent est très différent. Et il y a quelque chose pour moi dans cette lettre R qui est peut-être la plus vibrante, la plus incarnée, la plus, je ne sais pas, elle est...
La plus sensuelle peut-être.
La plus sensuelle. Et c'est sensuel différemment. Parce que selon s'il passe devant ou derrière, ou entre les deux, ou pas du tout, aussi cette lettre qui a de continents entiers, bon, de toute façon, de millions déjà, de gens pour qui
la lettre, le son n'existe pas.
Le son n'existait pas,
oui,
c'est extraordinaire.
Comme le Japon et en Asie de manière générale.
Même en anglais, quand ça vient au milieu, nous, ou en allemand, à la fin du mot.
On le prononce moins. Alors dans vos films, l'environnement et l'arrière-plan des personnes que vous filmez sont toujours très importants. Dans ce dernier film, il y a toujours et encore, comme dans les autres films, les feuilles qui dansent dans les arbres, mais il y a aussi les livres. Très visibles, par exemple, dans le premier entretien avec l'écrivain norvégien. Et je me suis demandé si ce n'était pas en lien avec le mot « livre » lui-même, qui en hébreu, « sefer », se décompose en « saf resh », c'est-à-dire au seuil de la lettre resh, au seuil de la lettre R, un seuil sur lequel on reste sans entrer ou que l'on traverse pour entrer ou sortir. Un seuil, c'est comme une frontière. Il n'est pas toujours évident à en faire la traversée, à en faire le passage, Nourita Vive.
Vous dites bien, parce que le premier film d'une langue à l'autre commence avec Meir Wieseltier, le poète, qui est sur le seuil de la porte, qui s'est dit « saf ». Et c'est la frontière, c'est le mot « frontière ». Dans mon film, moi-même, je suis bilingue ou trilingue, etc., les gens. Et comme si on est des lettres, des êtres, lettres, êtres, lettres différents, dans une langue ou dans une autre. C'est peut-être aussi l'idée que j'avais qu'au début, chacun marche un peu dans autour de là où il habite ou un peu plus loin, et il parle dans sa langue première. On peut dire maternelle, mais dans ce film, il parle aussi beaucoup de leur père. Mmh. Et il parle dans une langue. Après, face à la caméra, ils vont parler dans une autre, tous. Pour les Norvégiens, ils me parlent en anglais, mais c'est pas sa langue. Donc quand ils marchent, quand ils sont en marche, ils parlent.
On pense dans cette façon différente de prononcer la lettre R, on pense bien sûr, et quand on pense à la frontière, on pense bien sûr au shibboleth biblique, un mot qui, je crois, vous inspire beaucoup, et particulièrement dans ce film. L'épisode est bien connu, le shibboleth apparaît dans le livre des juges, au chapitre 12, lorsque Jephté, chef des hommes de Galaad, a défait les hommes de la tribu d'Éphraïm, et il a conquis les guets du Jourdain. De nombreux fugitifs veulent traverser le fleuve, et quand un fuyard d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les gens de Galaad demandaient « Es-tu de la tribu d'Éphraïm ?» S'il répondait non, alors il lui disait « Eh bien, dis shibboleth ». Et il disait « Shibboleth », car il n'arrivait pas à prononcer « shibboleth ». Alors on le saisissait et on le mettait à mort près des guets du Jourdain. Depuis cet épisode biblique, le mot shibboleth signifie mot de passe, un mot qui discrimine pour dire ceux qui sont avec nous et ceux qui ne le sont pas. Freud lui a donné une forte publicité. On a l'impression, Nourita Vive, que la lettre R joue ce rôle de shibboleth. La lettre R est donc une question de vie et de mort.
Dans mon film, Guy Régis Junior, qui est metteur en scène de théâtre haïtien, parle d'un fait réel en Haïti, à la frontière de Saint-Domingue. Il y avait vraiment la même histoire sur la frontière. Ils ont demandé aux gens de dire pas shibboleth, mais les mots perejil, qui veut dire persil. Et s'ils l'ont pas dit à la manière espagnole, en roulant les R très fort, mais à la manière douce, comme dit Guy Régis, caressante, avec les R délicieux haïtiens, ils étaient massacrés. Et il y avait un massacre, dans, je crois qu'en 6 jours, on a tué 30 000 personnes. Quoi. On a tué parce qu'ils n'avaient pas su dire Perejil comme on leur a demandé. Mais c'est vraiment, vraiment la même histoire, la même. Et j'imagine que ceux qui l'ont inventé ont lu la Bible. Mais il paraît que c'était arrivé dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que c'était, il y avait les mots de passe. Où on passe ou on passe pas. Mais je crois que c'est le seul endroit où c'était avec le R.
Et donc ça rejoint votre préoccupation. Et en tout cas, cet homme que vous interviewez a une profonde réflexion sur le R dans cette relation à la vie et à la mort, comme dans ce Shibboleth, dont la racine, c'est intéressant de le signaler, signifie épi de blé, chemin, courant du fleuve. Mais je crois que le mot exact, en fait, qui définit ce Shibboleth, c'est le tourbillon. Le tourbillon dans l'eau, que l'on retrouve dans le mot chavloul, qui signifie l'escargot, dont la coquille dessine un tourbillon, un tournoiement. Et le R roulé qui tournoie dans la langue ou en haut du palais est un Shibboleth à fleur d'étymologie, si on peut dire. C'est la seule lettre qui roule et tournoie dans la langue avec la langue. J'ai pensé que cette remarque vous plairait particulièrement, Nourrit Aviv, et je fais bien sûr allusion au film que vous avez tourné en 69 en tant que votre premier film en tant que chef opératrice qui s'appelait Chabloul, Nourrit Aviv.
En effet, il paraît que c'est un film culte aujourd'hui. J'ai fait l'image d'à peu près 100 films. Et quand j'enseigne dans une école de cinéma en Israël, ils connaissent un, et c'est Chabloul.
Et c'est un film de qui?
C'est un film de, avec Arik Einstein et Uri Zohar de Boaz Davidson. Mais Arik Einstein, c'est vraiment, c'est pour ça. Il était vraiment un chanteur superstar, mais c'est vraiment plus un chanteur extraordinaire. Et c'est vraiment incroyable que quand Orly Noy, qui est journaliste et traductrice du persan en hébreu,
et qui est personnage de votre film,
qui est un personnage de mon film, quand elle parle, elle donne un exemple des haies roulées des années 60, parce qu'à l'époque, en Israël, les haies officielles étaient roulées, bien que les haies dans la rue ne l'étaient pas, mais les haies officielles l'étaient. Et les chanteurs chantaient tous avec les airs roulés. Alors, Orly, elle prend Arik Einstein comme un exemple. Elle raconte que dans la voiture, parfois, elle chantonne avec de chanteurs. Et quand elle donne l'exemple d'Arik Einstein, elle dit, par exemple, quand lui, il a ses airs roulés. Alors, est-ce que si moi je chante avec lui, pour lui, c'est un air roulé un peu artificiel? Parce qu'il l'adopte. Et, mais pour elle, c'est les airs roulés, c'est les airs de son enfance. Et elle dit, oui, c'est les airs de mon enfance, donc c'est pas le même air. Il fait appeler toujours la petite fille que j'étais. Et peut-être elle dit, malgré tout, qu'elle a pas d'accent de tout, il y a toujours les migrants en elle, les migrants en elle, et on peut pas se débarrasser de cette partie-là de l'identité.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Thank you.
Baudelaire, correspondance, lui ici par Clément Bresson de l'Académie française sur Romance sans parole de Forêt. Ce poème est un poème fondateur dans l'esthétique de Baudelaire et dans la littérature en général, car c'est dans ce texte que se révèle poétiquement l'importance de la figure de la synesthésie, l'association entre les perceptions, une association où les couleurs, les parfums et les sons se répondent. Nourrit à vivre, c'est quelque chose qui vous parle particulièrement. Pour vous, les lettres ont des couleurs précises, sauf la lettre R, qui erre justement entre différentes couleurs. Parlez-nous de cette synesthésie et de son importance pour vous et dans la manière dont vous avez construit et tissé ce film.
Enfant, déjà, les sons avaient des couleurs. Je ne savais pas lire et écrire, les sons avaient des couleurs. Par exemple, quelqu'un, les parents ont dit, ils ont amené leurs amis, donc, et moi, c'est quelle couleur? Et moi, c'est quelle couleur? Et il fallait que je réponde, quelle couleur? Et la couleur était avec la lettre, le son de la lettre de début du nom. Donc, c'était la couleur. Et je me rappelle très bien, et qu'il y avait une amie qui s'appelait Aviva. Elle a dit, c'est quelle couleur Aviva? Donc, j'ai dit, la couleur de la moutarde. Elle a dit, comment? Tu sais pas que la couleur de Aviv, qui veut dire le printemps, c'est vert? Et j'étais complètement étonnée. J'ai dit, waouh, j'ai jamais pensé à ça. Donc, pour moi, c'était pas l'essence. C'était vraiment le son, tout pur. C'était lié à rien. Et je crois qu'elle m'a détruit un peu ça. Je me suis dit, qu'est-ce que les adultes sont intelligents? Et moi qui sais rien. Et du coup, je me suis un peu interdit ma synesthésie.
Le film est découpé en six parties avec à chaque fois un intermède floral, si on peut dire, et chaque personnage a une couleur. Quelles sont ces différentes couleurs, Nourrit à vivre?
Blanc, rose, bleu, rouge, jaune, vert.
Et pourquoi cet ordre?
Vous savez, la synesthésie, c'est la synesthésie. On ne peut pas demander pourquoi. Comme on dit, ça s'impose, mais c'est vrai qu'on ne sait pas.
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de noir.
Les blancs, les noirs, c'est peut-être la même chose. Un peu plus de lumière, c'est blanc. Un peu moins, c'est noir. C'est comme ça que j'ai appris à l'école, quand je voulais devenir chef opératrice, que c'est que je suis devenue. Et le hasard a fait que je fais un pas de côté et je suis devenue réalisatrice.
Chaque partie commence avec une image de fleurs que vous prenez apparemment avec votre téléphone. Et vous avez choisi différentes couleurs pour chaque personnage, le blanc, le bleu, le vert. Comment vous avez fait ces associations?
Il fallait juste que je prenne mon téléphone, que je m'approche très 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 proche. J'ai passé de mois et de mois à filmer de très proche les couleurs. J'ai dit les couleurs au lieu de fleurs, mais en fait ça représentait les couleurs. Je me suis servi de ma synesthésie pour m'inspirer pour une grammaire du film. Hein. Et d'ailleurs, j'écris même les lettres. On voit que c'est rouge et j'écris le mot rouge. On m'a dit, mais pourquoi tu écris? J'ai dit, parce que je dois voir les lettres écrites. C'est-à-dire que ça, j'aime beaucoup lire le mot rouge. Donc, je profitais pour mettre sur le rouge. Et toute la grammaire du film est là-dessus. Et il y a aussi Yap Blon, qui est un formidable poète sonore, sous la direction de Georges Bloch. Il a improvisé sur les images de fleurs et il avait comme conseil d'improviser à partir de mot R, A-I-R, Ruach en hébreu, ça veut dire le vent. Et il a tout fait par rapport à cette R qui passe, le vent, l'air, la respiration, le souffle. Et je trouvais que ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire.
Parce que dans le texte de Baudelaire, les couleurs, les parfums et les sons se répondent. Là, c'est le son du vent, c'est le bruit du vent dans les fleurs, dans les arbres. Quelle est la couleur du vent, Nourrit à vivre?
Si je reste dans le V, c'est une sorte de blanc un peu rosé. C'est un blanc rosé.
La couleur des lettres est une idée très biblique que va reprendre la Kabbale et la pensée chassidique. Je pense à l'arc-en-ciel qui apparaît après le déluge comme signe d'alliance et promesse que ce déluge ne se reproduira plus jamais. Le mot utilisé par la Bible pour ce signe d'alliance, pour ce signe, c'est Ot, et ça signifie littéralement la lettre. C'est une lettre colorée d'une infinité de couleurs. c'est-à-dire la diversité des opinions capables de vivre et de coexister ensemble malgré les différences, dissembler mais ensemble. Nourrit à vivre, c'est là un thème central dans votre film. Le R à la fois discrimine, mais votre film les rassemble et fait surgir, on pourrait dire, un arc-en-ciel.
Exactement, c'est vraiment la diversité. C'est encore Guy Régis Junior qui en parle, que lui, il aime les théâtres enfoncés dans tous les accents possibles de partout. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans tous mes films. C'est la diversité sous une chose commune. C'est-à-dire que là, c'est une lettre commune, mais elle est tellement différente. Et en même temps, elle est partout. C'est-à-dire que c'est ce qui ressemble et c'est ce qui rassemble les gens, peut-être dans mon film et ailleurs, je l'espère.
Dans votre film, certainement, et ça donne une grande force au film, une grande puissance, à la fois une légèreté, on sent une grande légèreté, une force de vie. On parlait du Shibboleth qui est discriminant et qui est plus, dans le texte d'origine, quelque chose lié avec la mort. Mais on sent dans votre film, quand on en sort, quelque chose d'une puissance de vie, une pulsion de vie qui est assez formidable, je tenais à vous le dire. Et j'avais envie de rajouter que Rabbi Nachman de Bratslav dit deux choses qui sont très jolies. La première, c'est que quand on prend une lettre noire sur blanc, si on avait la capacité de soulever la lettre comme un tapis sur le sol, on verrait que l'interface entre le noir de la lettre et le blanc du parchemin, c'est pas le gris mais c'est le bleu azur. Et j'ai pensé que c'est une image qui vous plairait. Et il rajoutait qu'un mot est une histoire d'amour entre les lettres de l'alphabet, entre les consonnes et les voyelles, entre les consonnes elles-mêmes. Et reprenant une idée que l'on trouve dans le Zohar et ses commentaires, il souligne qu'il existe des lettres masculines et des lettres féminines, et cela apparaît très clairement dans votre film. Au fur et à mesure des différents récits qui concernent cette lettre R roulée, se découvre un lien particulièrement fort avec le père et avec le masculin, Nourrit à vivre.
Oui, étrangement, je ne m'attendais pas. C'est vraiment étrange. Moi, quand vous parlez comme ça de référence, je pense à autre chose. Il y a Rabbi Saadia Gaon qui a fait un traité entier sur le R. Et il l'a fait à partir de Sefer Yetzirah. Parce que le Sefer Yetzirah, qui est un traité mystique, on dit de 2e siècle, un peu plus tard, et lui, il est dans le 9e siècle, Rabbi Saadia Gaon. Et Rabbi Saadia Gaon se demande au 9e siècle comment étaient les R, est-ce qu'il est roulé, etc. Est-ce qu'il est doublé, C'est extraordinaire.
Vous ne m'avez pas répondu sur la question du masculin et du père.
Le masculin, dans le film, il y a deux personnes qui témoignent du R comme étant masculin. Et d'ailleurs, Fonagi, qui est un linguiste très connu, le dit aussi, qui a écrit les bases pulsionnaires de la fondation. C'est extraordinaire.
De la fondation.
Oui. Mmh. Et il paraît que c'est masculin. Et les pères. Moi, vraiment, je m'attendais ni que ce soit masculin, ni sur un film sur les pères. On croit que c'est un film sur la langue maternelle, n'est-ce pas? Donc. Et l'écrivain norvégien Karl Ove Knausgård a écrit 6 livres sur le rapport qu'il a avec les pères. Et ça, c'est l'exemple qu'il donne en norvégien. Ça se cristallise autour d'un mot qu'il n'arrivait pas à dire, qui contient les R, pendant que les deux étaient sur une barque. Et tout, en fait, une petite scène où le père se moque de lui, parce qu'il sait pas dire les R, comme il se moque pour surtout, il se moque qu'il amène des fleurs, comme les filles. D'ailleurs, on est de nouveau dans le gender, même avec cette histoire-là qu'il raconte. Bon, je raconte le film, il faut pas le faire.
Non, c'est ce que je me dis toujours. Je pensais, alors sans faire une psychanalyse de Nourrit à vivre, puisque je suis pas votre psychanalyste et que je ne suis pas psychanalyste du tout, mais je pensais que vous avez fait un film qui s'appelle Vatersland, qui veut dire le pays du père. Mais c'est pas le mot lui-même classique, qui est Vaterland, qui veut dire la patrie. Et en faisant ce film Vatersland, je me suis aperçu que vous avez déplacé le R dans le mot. Parce que dans Vaterland, qui veut dire la patrie, le R est exactement au milieu. C'est-à-dire que il y a quatre lettres avant et quatre lettres après, alors que dans Vaterland, le R bouge, se met à errer, et je me suis demandé si c'était pas le début de votre réflexion sur le R. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Votre père était un très grand photographe allemand, de langue allemande.
Juif allemand,
mais un très grand photographe.
Mon père était de Berlin.
Oui.
Ma mère était tchèque et ils se sont rencontrés en Tchécoslovaquie et ré-rencontrés à Tel Aviv. Oui, je fais le métier de mon père avec un petit mouvement, c'est-à-dire que j'ai ajouté le mouvement. Mon père était photographe de presse, mais il a déjà commencé à Berlin. Imaginez-vous qu'à 16 ans, il a déjà fait des photos, beaucoup de photos d'acteurs qu'il a vendues, mais on a pensé que c'était les coursiers. Il savait pas que ces garçons qui amenaient les photos les a fait lui-même. Il a prétendu être les coursiers. Donc, il a commencé en effet à Berlin et après, il a continué.
Et alors?
Ils vont fuir. Et ma mère était enfant, etc. Et Vaterland, en effet, le film commence sur l'histoire de mon père à Berlin et finit avec la mort de ma mère et avant elle, la grand-mère. Hein. Mais ma mère, qui est ma grand-mère, a disparu et ma mère est née. Elle a dit, avant de mourir, elle a dit en allemand, aussteigen, sortir de la vie, mais quand même comme une action, sortir. Et on est dans Schibolet de nouveau.
Exactement. On est dans sortir, on est dans la traversée des frontières, celle de, entre la vie et la mort. Et je pensais aussi, par rapport à votre film et par rapport à la langue dans laquelle nous parlons et nous échangeons ici, que s'il n'y avait pas de R, la mort serait simplement un mot. Est-ce que les mots qu'on utilise et la grammaire de vos films n'est pas une manière aussi de construire une mémoire au-delà de la mort, nourrit à vivre.
C'est peut-être tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend des images, c'est pour qu'elles restent après nous. Oui, en effet, je crois que c'est une sorte de manière de lutter contre la mort la vraie, la dépression, c'est qui tire vers les bas, j'ai envie de dire, et comme si le haut était la vie, mais bon, c'est pas évident. Mais oui, je crois que c'est... Freud parle de sublimation, etc., etc. Je crois que, oui, d'un film à l'autre, j'ai encore fait un film, je suis vivante.
Alors, d'un film à l'autre, c'est un nouveau film, mais il y a quelque chose qui est présent dans tous les films, c'est l'arrière-plan dont je parlais, qui est le vent dans les feuilles. Et j'ai lu un article qui s'appelle « La métaphysique des feuilles », qui parle très longuement et de manière très approfondie sur le fait que lorsque les frères Lumière ont fait leur premier film en 1895, qui s'appelle « Le repas de bébé », tous les spectateurs n'étaient pas étonnés ni émerveillés que les personnages au premier plan bougent, mais disaient « les feuilles bougent, il y a du vent dans les feuilles, il y a du vent dans les arbres » qui était l'arrière-plan. Et je me suis demandé, est-ce que ce souffle dans les feuilles, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour vous, dans la mesure aussi où le mot feuille a un double sens, et en français et en hébreu, c'est à la fois les feuilles de l'arbre et les feuilles du livre, comme si les feuilles bougent, c'est-à-dire on tourne les pages, et je me demande quelle page vous tournez de film en film, Nourrit à vivre.
C'est joli, et les feuilles, hein, qui sont les deux, parce qu'en fait, c'est culture-nature. Et moi, les feuilles, quand ils commencent à bouger, vraiment, je suis émue chaque fois. Et dans le film, j'ai essayé de mettre cette émotion-là. Et j'essayais de trouver le moment où ils ne bougent pas et ils se mettent à bouger. Et si je suis là avec à les filmer, je trouve ça miraculeux. Et je crois qu'ils ont raison de dire « oui, les feuilles bougent parce qu'on est là et devant nous ». C'est comme si on est témoin d'un miracle. Pourtant, ça arrive souvent, mais on est témoin au moment même. Voilà, ça bouge, ça se met à bouger. C'est formidable.
Merci Nourrit à vivre pour cette conversation passionnante et précieuse, et je dirais presque émouvante. Je rappelle le titre du film dont nous avons parlé, La lettre errante. C'est au cinéma depuis le 6 mars et c'est au 3 Luxembourg, dans le 6e arrondissement. Je tiens à préciser que certaines séances sont suivies de dialogues avec une ou un invité. Je redis le titre, La lettre errante, un vrai régal pour les yeux, les oreilles, l'intelligence et le cœur. Merci encore, Nourita Vive.
Merci à vous, Marc Alain, de chaque fois, tous les deux ans jusqu'à maintenant, de m'inviter et de me faire réfléchir sur mes propres films d'une manière absolument originale. Merci
c'est
à vous.
C'est toujours un plaisir. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Pierre Henry, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et filmographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique, et vous retrouverez aussi la liste des rencontres avec la réalisatrice et ses invités. Kol Touv, Leïtraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.